Voilà.
C'est pas du vin. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Creuser les entrailles de la terre, bétonner des kilomètres carrés de sol, détourner des fleuves ou enfouir des déchets, c'est ce que nous faisons partout depuis des siècles pour accompagner notre développement et nourrir la gloutonne croissance économique. Des autoroutes géantes, des aéroports capables d'accueillir des millions de passagers, ces grosses infrastructures sont nécessaires, mais combien en faut-il à l'échelle d'un pays ? Qui est légitime pour décider comment aménager un territoire ? Est-ce que l'intérêt général est réellement ce qui prime au moment du choix de construire ou non. Les luttes contre les projets d'aménagement se multiplient et se structurent. De Notre-Dame-des-Landes à la Guyane, en passant par Dakar et Istanbul, des centaines de mobilisations qui repolitisent notre rapport à l'environnement. Et c'est peut-être une bonne nouvelle pour la démocratie.
C'est pas du vent. Sur RFI.
Chérie!
On veut du silence et du temps, on veut sortir à la lumière, on veut cultiver nos enfants et on veut cultiver nos terres. Notre-Dame des Landes de terre, Notre-Dame des chemins de long, Notre-Dame des oiseaux de terre, Notre-Dame des livres et des sons.
C'est pas du tout des conditions pour un véritable dialogue, ça ressemble beaucoup plus à une sorte de couperet qui cherche à imposer un modèle et un timing qui est étouffant, surtout quand on a un dispositif policier en place qui applique une pression telle. On demande que ce soit un véritable dialogue, ça veut dire des lignes qui bougent de part et d'autre. C'est une sorte de reddition qui est exigée et ça c'est quelque chose qu'on va porter fort. Nous, on veut pouvoir proposer un modèle qui est singulier, qui est vivant, qui propose quelque chose qui va à l'encontre d'un modèle dont on est convaincu qu'il ne fonctionne pas. Ce modèle, c'est quelque chose dont on voit les effets néfastes partout dans le monde agricole et on ne comprend pas cette obstination du gouvernement à vouloir imposer à tout prix un modèle dont on sait qu'il ne fonctionne pas.
Le combat contre la construction de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes dans l'ouest de la France, vous en avez beaucoup entendu parler sur notre antenne et dans tous les médias français. Résister aux grands projets inutiles et imposés, c'est le titre de l'ouvrage que le collectif des Plumes dans le Goudron vient de publier aux éditions Textuelles. Trois membres de ce collectif sont avec nous aujourd'hui. Anaïta Grisoni, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et urbaniste. Julien Milanesi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'Université Toulouse 3 et co-réalisateur d'un documentaire L'intérêt général et moi, et par téléphone, Léa Sébastien, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en géographie à l'université de Toulouse 2. Alors avec vos différentes casquettes, vous avez tous étudié des luttes contre des grands projets d'aménagement du territoire. Qu'est-ce qui vous a donné envie, je vais vous poser la question à vous Anaïta Grisoni, parce que je crois que c'est vous qui avez un peu rassemblé tout le monde. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous constituer en collectif et d'écrire un livre? Enfin, c'était peut-être une envie commune d'ailleurs.
En fait, on a essayé d'avoir dans ce livre un point de vue qui était à la fois théorique et engagé sur ce qu'on désigne comme un mouvement social. Sauf que pour étudier ce mouvement social, il fallait avoir une idée de ce qui se passait dans les mouvements particuliers localisés. Et l'idée, c'était non pas d'être exhaustif parce qu'on n'a pas été chercher tous les chercheurs militants et experts qui auraient travaillé sur les différentes luttes et les différents projets d'aménagement. Par contre, l'idée, c'était d'avoir plusieurs entrées, plusieurs cas, et en partant de là aussi, d'avoir plusieurs points de vue différents, donc disciplinaires, mais aussi de plusieurs points de vue liés à nos engagements différents. Donc voilà, on a formé ce petit collectif comme ça, et finalement, l'écriture s'est faite à quatre mains.
Julien Milanesi, quels sont les points communs finalement entre tous ces grands projets? Vous les listez dans le livre, vous dites qu'il y a déjà un peu trois types de grands projets. Hein.
Oui, alors nous ce qu'on regarde c'est davantage finalement les mouvements que les projets.
Donc voilà, les points communs qu'on va trouver, on va les trouver davantage entre les mouvements d'opposition que les projets. Autrement, effectivement, il y a des projets d'extraction, c'est dont vous parliez en introduction, hein, d'extraction, des projets de transformation et des projets
liés aux déchets.
Voilà. Mais ensuite, nous, les proximités qu'on regarde, c'est vraiment celle des mouvements et la façon dont ils définissent et la façon dont ils se battent contre ces projets. Et donc là, ce qu'on observe, c'est à la fois des parcours qui sont assez similaires entre les différentes luttes, les différentes associations, c'est-à-dire des gens qui partent de la défense du territoire pour arriver à une défense à la défense d'une vision du monde. Et puis
et des gens très divers, hein, c'est ça qui est intéressant.
Et des gens très divers, et ça, c'est un des points communs aussi qu'on retrouve dans toutes ces luttes, c'est-à-dire divers parce que ce qui les rassemble à l'origine, c'est le territoire. C'est habiter un lieu, habiter un endroit et un attachement à ce lieu, c'est ça qui va créer la dynamique collective initiale. Donc ce sont des gens qui viennent de milieux sociaux, d'engagements politiques souvent très différents, auxquels vont s'agréger des gens qui, eux, ont un engagement plus lointain, des militants politiques, associatifs, syndicaux, qui vont rejoindre ces luttes-là pour des raisons d'idées, eux. Mais au final, ce qu'on observe, parce que c'est des luttes extrêmement longues, c'est qu'il y a un métissage qui se crée entre ces différentes origines, entre ces différents types d'engagement, pour arriver finalement derrière, à la fin, à un engagement commun.
Alors, exemple de combat en cours, la mobilisation contre un immense projet de mine d'or en Guyane. Bonjour Isabelle Autissier.
Bonjour.
Vous êtes la présidente du WWF France. Alors ce projet consiste à creuser une fosse équivalente à 32 stades de foot au cœur de la forêt guyanaise pour produire 6,7 tonnes d'or par an sur 12 ans à partir de 2022. Alors vous dites tout d'abord que ce serait un désastre écologique.
Ben oui, une horreur écologique. D'abord on creuse à un jet de pierre de parc naturel. On détruit donc cette forêt qui est si précieuse, dont tout le monde nous dit qu'il faut absolument conserver de la forêt partout. On détruit des espèces, dont un certain nombre d'espèces protégées. 127 espèces protégées ont été inventoriées sur le site. Sans parler des risques, on a vu dans beaucoup de pays tous les risques, les ruptures de digues, les transports de matières dangereuses. On va quand même transporter en pleine forêt 57 000 tonnes d'explosifs et 46 000 tonnes de cyanure. Excusez du peu. Avec tous les risques qu'on a vus un peu partout dans le monde. Donc c'est vraiment déjà, du point de vue environnemental, c'est juste une abomination, quoi.
Et vous qualifiez aussi ce projet de mirage économique et de gouffre pour l'argent des contribuables.
Eh bien oui, parce que d'abord au WWF, on est très sensible au fait qu'il faut que les gens trouvent du travail et qu'ils puissent vivre décemment en Guyane. Mais pour ça, il nous semble qu'il est bien mieux de trouver un travail dans des voies qui sont des voies renouvelables et que les générations futures pourront continuer à pratiquer, plutôt que là où on va mobiliser une somme d'argent public quand même assez colossale, puisqu'il s'agit rien de moins que 420 millions d'argent public, et qu'on nous promet 750 emplois directs, à voir d'ailleurs si ce sera vraiment ça, mais enfin mettons, ça fait quand même 560 000 euros d'argent public par emploi. Alors, nous, on a fait une petite étude sur le tourisme, par exemple, et on a montré que avec 4 fois moins d'argent public, on crée 6 fois plus d'emplois et d'emplois durables, puisqu'il s'agit de magnifier, en gros, le tourisme écologique et le tourisme de nature. Donc, c'est un miroir aux alouettes dans lequel tombent un certain nombre, malheureusement, de responsables locaux, mais dans lequel ne tombe pas la population, puisque 75% des Guyanais pensent que ce projet de montagne d'or, c'est un risque pour l'environnement et qu'ils pensent qu'il vaut mieux encourager l'agriculture durable, l'exploitation durable de la forêt ou la pêche durable. On a des moyens pour le faire et pas d'aller sur un projet comme ça qui est un gouffre.
Alors l'entreprise Montagne d'Or, détenue par les multinationales russes Nordgold et canadiennes Columbus Gold, jure, elle, qu'elle s'inscrit dans le projet de charte de mines responsables soutenu par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est vrai, a soutenu le projet quand il était ministre de l'économie et il l'a encore défendu lors de sa visite en Guyane en octobre dernier.
Oui, enfin, il a quand même mis un tout petit bémol puisqu'il a quand même parlé des résultats de la consultation publique qui est en cours. Et je pense qu'il y a un tel tollé, que ce soit de la part des chefs coutumiers, de la population, même du syndicat majoritaire de Guyane, que je pense que ça peut-être faire un peu bouger les choses parce que les gens n'en veulent pas. Donc ça, je crois que c'est important. Après, il faut voir aussi sur quoi se reposent les analyses. On nous dit que ça va gagner beaucoup d'argent. On se rend compte, quand on décortique le dossier, que les gens, les promoteurs du projet, ont retenu les hypothèses économiques les plus favorables. Si on regarde la moyenne sur les 12 dernières années du cours de l'or et du taux de change, on s'aperçoit qu'en fait, ce projet perd de l'argent. Donc on nous fait miroiter aussi beaucoup d'impôts qui seraient payés si tout se passe bien, mais si l'entreprise perd de l'argent, non seulement elle ne va pas payer d'impôts puisqu'elle sera déficitaire, mais en plus on peut craindre qu'elle rogne un peu sur la sécurité, sur les questions environnementales pour essayer de revenir à l'équilibre. Donc on est vraiment sur un territoire. Je voudrais aussi vous dire que on s'aperçoit aujourd'hui, quand on fait une petite étude, qu'il vaut beaucoup mieux chercher l'or dans nos poubelles, qu'il y en a beaucoup plus dans nos rejets, d'appareils électroniques, etc., et que ça coûte en gros 24 fois moins cher d'aller le chercher dans nos poubelles que d'aller l'extraire dans la nature. Donc, on est vraiment faux sur tous les domaines. On a un projet du siècle dernier, en gros, c'est ça. On s'imaginait qu'on mettait des mines partout et que tout allait bien. On n'en est plus à cette époque. On est dans l'économie circulaire. On est dans la forêt. C'est notre poumon. C'est notre oxygène. C'est la base d'une économie durable. Donc voilà, ne gaspillons pas nos recherches et ne gaspillons pas notre argent public.
Merci Isabelle Autissier.
Merci.
Julien Milanesi, vous disiez, ça fait écho à un autre projet qui a été abandonné en France.
Qui vient d'être abandonné en métropole, oui, au Pays Basque, dans la région du piment d'Espelette, près de Cambeau, il y avait un projet de mine d'or. Et ça faisait plusieurs années donc ce projet était en cours. Il y a eu une très forte mobilisation de la population sur place. Les élus étaient également opposés au projet. Ce qui est intéressant, c'est que les arguments sont exactement les mêmes que ceux qu'on vient d'entendre. C'est-à-dire, évidemment, création d'emplois au niveau local et puis mine responsable, vous inquiétez pas, il n'y aura aucun impact, etc. Et la population a réussi là, à emporter la bataille puisque le projet a été retiré.
Alors là, Sébastien, c'est vrai que quand on écoute Isabelle Autissier, on entend un peu tous les ingrédients d'un combat contre ce que vous appelez donc les projets inutiles. Il est imposé, notamment cette surestimation des retombées économiques, c'est-à-dire ce débat d'experts. Et d'ailleurs, il faut que les populations qui se mobilisent se mettent au niveau quelque part.
Oui, oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'on retrouve dans la plupart, malheureusement, des grands projets inutiles ou imposés. C'est finalement les deux imaginaires qui s'opposent entre la croissance, qui est toujours l'imaginaire irrigué par un imaginaire du toujours plus, qui nie la possibilité même de satiété au niveau de toutes les infrastructures. Donc ça peut être les routes, les aéroports, les LGV, les supermarchés, mais aussi, là on est dans l'extractivisme, qui est un domaine qui est énormément contesté en Guyane, en Amérique du Sud aussi beaucoup. Il y a d'énormes mobilisations autour des activités d'extractivisme, où on a remarqué effectivement qu'il y avait des surestimations très communes dans les perspectives de consommation, de mobilité, etc., autour de la définition des projets, que les militants souvent parviennent à dénoncer en menant des études alternatives et en proposant des duels scientifiques, qu'on peut appeler des expertises profanes sur ces projets. Et ils arrivent eux-mêmes à développer un capital cognitif très important sur ces projets et à dénoncer ces statistiques de surestimation économique.
Oui, dans votre livre, par exemple, vous expliquez que la construction de nombreuses autoroutes en France a été justifiée par les chiffres officiels qui annonçaient une croissance du trafic routier de 2,5% par an, alors qu'en fait, il stagne depuis les années 2000. Et comme vous le disiez, finalement, le fait de penser qu'à terme, les routes, les ports et les aéroports vont être saturés, c'est un mythe bien ancré dans notre imaginaire, parce que ça rassure finalement de penser que nous vivons dans un pays qui continue à se développer. C'est donc l'imaginaire autour de la croissance qu'il faudrait remettre en cause. C'est en tout cas l'avis de Stéphane Kerkov, délégué général de l'ONG Agir pour l'environnement.
Mis bout à bout, ces projets d'autoroute, ces projets de lignes LGV nous dessinent un environnement politique qui laisse supposer que, alors que ce soit les élus locaux ou les responsables nationaux, iraient chercher systématiquement dans les vieilles recettes du productivisme une façon de relancer ou stimuler ou simuler une activité économique atone pour essayer de créer de la croissance pour redistribuer et créer de l'emploi. Or, on voit bien que ces équations mis bout à bout, déraillent systématiquement. Parce que, tout simplement, nous n'en avons plus besoin. La France, par exemple, a 6 fois plus d'aéroports qu'en Italie et 12 fois plus qu'en Allemagne. Et pourtant, on continue à en construire. On a l'un des principaux réseaux autoroutiers européens et pourtant, on veut encore agrandir de près de 10% ce réseau autoroutier. Alors que, globalement, on sait très bien que les autoroutes qu'on construit aujourd'hui ne sont plus viables économiquement et ne sont plus justifiées par une quelconque évaluation de trafic.
Julien Milanesi, vous qui avez suivi justement les combats contre les constructions d'autoroutes, comment vous réagissez ?
La question en fait qui se pose à nous, c'est la question de la satiété qui est particulière à notre histoire économique. Nous sommes un des plus vieux pays industrialisés, très largement équipés aujourd'hui. Alors effectivement, on a cité Stéphane Kharkov a cité les routes, on pourrait parler des centres commerciaux également. Il y a de gros sujets aujourd'hui sur les centres commerciaux où on est le pays d'Europe le plus équipé en centres commerciaux. Donc la question qui est compliquée derrière, c'est que ça nous demande de changer d'imaginaire économique. C'est-à-dire que notre pays a été construit, reconstruit, on pourrait dire, depuis la Deuxième Guerre mondiale, autour de l'idée voilà, que le développement industriel, l'aménagement, étaient synonymes de croissance économique et donc de progrès et donc de bonheur. Enfin, il y a toute une association comme ça qui rassure. Ouais. Et donc, mais c'est des réflexes, si vous voulez, de pensée et d'imaginaire économique dont il faut sortir. C'est-à-dire, aujourd'hui, notre question, c'est quelle intervention publique dans un pays qui est déjà très largement équipé, dans lequel on est en gros à satiété sur beaucoup d'équipements.
Et dans les pays en développement, comment aborder cette question de l'aménagement du territoire, on en parle juste après une pause musicale.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
La Guyane, c'est la France, et la France, c'est l'Europe. Donc, la Guyane se doit d'être aux normes européennes. Vous aurez la responsabilité de poser la première pierre du chantier Guyanège. Nous allons construire la première station de ski indoor en Amazonie à neige artificielle.
Pour nous écrire, c'est pas du vent, @rfi.fr.
Pas du vent sur RFI, vous avez bien raison. Nous sommes en compagnie des membres du collectif des Plumes dans le Goudron, sociologues, urbanistes et géographes, qui viennent de publier « Résister aux grands projets inutiles et imposés » aux éditions textuelles. À propos de grands projets, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait promis de laisser sa signature à Istanbul. Il multiplie depuis les méga-projets dans la mégalopole. Après son troisième pont, inauguré en 2016, Istanbul se dotera bientôt d'un troisième aéroport. Inauguré dans 6 mois, le jour de la fête nationale, il accueillera dans un premier temps 90 millions de passagers par an, 200 millions à terme. Une ambition démesurée que dénoncent ses détracteurs qui critiquent aussi le coût environnemental du projet. C'est un reportage de Camille Lafrance.
Istanbul New Airport.
Le nouvel aéroport d'Istanbul, bâti sur une zone de 76,5 millions de mètres carrés, démarrera son activité le 29 octobre 2018. Il pourra accueillir 90 millions de passagers dans un premier temps, puis 200 millions quand toutes les phases du projet seront terminées. Avec plus de 350 destinations, le nouvel aéroport d'Istanbul sera le nouveau centre du transport aérien.
On est sur le chantier du troisième aéroport d'Istanbul, des bulldozers là, qui s'activent dehors, sur un immense terrain au nord de la ville, à environ 35 km. Tout autour, il y a des vaches qui broutent encore. Et pour l'instant, il y a eu tous les contrôles et un premier terminal qui sont sortis de terre. C'est là qu'on se trouve actuellement. Et le ministre des Transports y donne une conférence de presse.
Monsieur le ministre.
Chers membres de la presse, chers collègues, avant, cet endroit était marécageux, inondé toute l'année, nous l'avons modernisé. Du point de vue de l'énergie, de l'eau, du recyclage, tout a été pensé, c'était un point très important. Le système d'isolation thermique de l'aéroport pour l'hiver et l'éclairage via ses vitres sont à la pointe de la technologie. Cet aéroport a reçu de nombreux prix car c'est un projet respectueux de l'environnement.
Nous voici dans un des rares petits parcs de la ville, en face de la chambre des urbanistes d'Istanbul. Une chambre dont plusieurs membres sont sous pression depuis les événements de Gezi en 2013 et la répression de manifestations contre la destruction annoncée d'un autre parc, Gezi, au cœur de la ville. Et aujourd'hui, le statut indépendant de la chambre pourrait même être menacé.
Bien, la population d'Istanbul est de plus de 15 millions d'habitants, peut-être même 20 millions. On ne sait pas exactement. Et si on calcule la part d'espace vert par personne, c'est moins d'un mètre carré par habitant. Et si on pense au futur, on doit défendre chaque petite parcelle de verdure qu'il reste dans la ville, contre ces projets de construction. Je m'appelle Akif Burakatlar. En tant qu'urbaniste d'Istanbul, nous n'avons pas du tout participé au processus. Alors, combien d'aéroports a-t-on ? Eh bien, on en a déjà un sur la rive européenne et l'autre sur la rive asiatique. Leur capacité totale est déjà de 70 millions de passagers par an. Sur la rive asiatique, ils commencent déjà à construire une extension. Et quand celle-ci sera ouverte, elle amènera 25 millions de voyageurs par an supplémentaires. Donc ces deux aéroports absorberont les besoins aériens pour les 20 prochaines années. Donc les études disent que nous n'avons pas besoin d'un aéroport supplémentaire. Alors, vous vous demandez pourquoi ce nouvel aéroport ? Eh bien, ce genre de grands projets apportent de plus petits projets périphériques. Et ça, je ne pense pas que ce soit dans l'intérêt de la ville et de ses habitants. Quand vous construisez une route au milieu de nulle part, c'est comme un appel d'air et vous amenez de nouvelles installations, des projets immobiliers, de la spéculation sur les terres. Ils essaient de vendre leurs projets immobiliers en s'appuyant sur ces méga-projets. En 2009, il y a eu un grand plan pour Istanbul, fait par la municipalité. Il était censé planifier les prochaines 20-25 années, en fonction des dynamiques de la ville. Il n'a jamais été fait mention du troisième aéroport, ni du troisième pont sur le Bosphore. Ce plan disait de protéger la partie nord d'Istanbul. Mais ils ont démarré ces projets si rapidement. On a bien sûr essayé de les contester avec nos rapports techniques, mais ça n'a donné aucun résultat. Nous avons même lancé des recours en justice, mais cela ne les arrête pas.
On est dans la
forêt de Belgrade, qui est une forêt au nord d'Istanbul. On a passé des grands chantiers urbains, hein, comme l'autoroute du Nord qui va relier la ville à l'aéroport, au troisième aéroport qui est en fin de construction. Et là, il y a un groupe d'activistes de l'association de défense de la forêt du Nord qui organise une marche dans cette forêt pour parler justement des risques que ces grands projets font peser sur l'environnement et puis la vie à terme dans la mégalopole.
Je m'appelle Balaban de l'association des défenses des forêts du Nord. On voudrait que les gens comprennent la beauté et apprécient les bénéfices que la forêt peut leur offrir, car à Istanbul, la nature est très importante. Mais elle diminue car les constructions explosent et les forêts sont en grand danger. Le vrai problème, c'est que la zone nord d'Istanbul est le seul endroit où demeure une vraie forêt. Toutes les réserves d'eau d'Istanbul sont dans le nord. Et si la ville continue de s'étendre vers ce nord, tout cela disparaîtra et la ville n'aura plus d'eau. La municipalité envisage de dessaler l'eau pour les réserves de la ville. Mais même s'ils font ça, cela aura un impact sur l'écosystème de la mer au nord d'Istanbul. Les vents à Istanbul vont du nord vers le sud. Et donc cette zone, comme les autres forêts du nord, donne à Istanbul son oxygène. C'est pour ça qu'on l'appelle le poumon d'Istanbul. Cet écosystème est unique. Si un canal est construit après le troisième aéroport et le troisième pont, Istanbul perdra alors toutes les forêts de la région du Nord.
Oui, alors Canal Istanbul, c'est une déviation artificielle du Bosphore. Hein. C'est un projet qui relierait via un bras entre les terres, la mer de Marmara à la mer du Nord, donc en parallèle de l'actuel passage du Bosphore. Quand on se balade dans Istanbul, c'est difficile de ne pas être frappé par l'étalement urbain et tous les nouveaux immeubles en construction dans une ville qui est déjà tentaculaire. Une ville qui a récemment été décrite dans le livre Istanbul Planète du chercheur Jean-François Pérouse.
Ce sont des grands projets destinés d'abord à positionner la métropole d'Istanbul dans le top des grandes métropoles mondiales, en la dotant d'équipements extraordinaires pour pouvoir organiser des grands événements, d'assurer le rayonnement de la Turquie et de montrer sa puissance, sa capacité à construire, à réaliser rapidement, à réaliser grand. C'est un des slogans, penser grand, de l'AKP et du président Erdogan, tout particulièrement. Mais on est dans une vision qui est très opportuniste, mais qui aussi a des effets performatifs, c'est-à-dire que ces projets qui peuvent sembler un peu fous, finissent par se traduire effectivement par de nouveaux flux touristiques, de nouveaux flux d'échanges économiques, et même si en période préélectorale, on réactive la perspective de ce grand projet. On peut, pour Canal Istanbul, se demander si, surtout dans le contexte économique actuel, de dépréciation de la livre turque, si le pouvoir aura la capacité de financer et de trouver sur les marchés internationaux le financement nécessaire pour une telle entreprise.
Anaïta Grisoni, comment réagissez-vous à ce reportage ? On entend bien donc le président Erdogan qui veut absolument imposer sa marque, faire grand, faire rêver, donner confiance aux populations. La Turquie, qui est d'ailleurs un pays où un mouvement de contestation est né en mai 2013 sur des intérêts environnementaux.
Oui, alors effectivement, la Turquie, c'est un pays qui a quand même une longue tradition de mouvements écologistes bien ancrés, surtout dans les territoires périphériques, comme à l'est de l'Anatolie, où il y a depuis des décennies des grands projets d'infrastructures, des grands projets de barrages qui sont mis en place afin de civiliser ou de domestiquer le territoire, on choisit les termes qu'on veut, et qui font toujours front à un barrage de la population qui cumule les critères critères ethniques, territoriaux, sociaux. Enfin, c'est des mouvements aussi complexes. Je pense par exemple au barrage de Hasankeyf, qui a fait l'objet d'une mobilisation qui a eu un écho international. Donc effectivement, il y a cette tradition. L'épisode de Gezi avec l'occupation du parc de Gezi.
C'était en mai 2013.
C'était en mai 2013, pendant plusieurs semaines, où on a vu tout type de population se retrouver autour de ces quelques arbres. Alors c'était assez émouvant de voir cette petite parcelle de nature qui était au cœur de la revendication.
En fait, les gens s'opposaient à l'arrachage des arbres.
Exactement, voilà. Ils s'opposaient à l'arrachage des arbres.
Et c'est devenu un mouvement, parce que ça a été fortement réprimé, c'est devenu du coup un mouvement de solidarité très fort.
Qui est devenu un symbole très fort et qui était aussi... le dernier moment, peut-être, avant le début d'une phase politique dans laquelle le régime de Erdogan est devenu extrêmement autoritaire. Il y a beaucoup de répression. Donc ça, c'est la grande différence, peut-être, avec les projets et les mouvements qu'on a ici, même si la répression ici est très forte. En fait, je pense que le risque pour les militants ou les opposants dans le contexte turc est vraiment très important. La deuxième grande différence, effectivement, c'est celle de la croissance. Je veux dire, c'est un pays qui est en phase de croissance depuis les années 2003-2004, avec une croissance à 10-12%. Donc finalement, on n'est pas du tout dans la même configuration que ce qui peut se passer ici, puisque là-bas, la croissance est une réalité. Le pouvoir en place est installé depuis des décennies et finalement, faire preuve de sa grandeur, ça n'est qu'une continuité d'un modèle. Et c'est assez différent de ce qui se passe ici, voilà.
Léa Sébastien, ce qui est en tout cas toujours la même chose dans ces mouvements, c'est un attachement au territoire, et un attachement au territoire qui ne se résume pas seulement à un concept que l'on entend souvent pour discréditer ces mouvements, c'est le fameux concept NIMBY, not in my backyard, c'est-à-dire pas dans ma cour, sous-entendu, tout le monde veut du modernisme, mais personne ne le veut à sa porte, et vous démontez cela ?
Oui, tout à fait. C'est un courant, le NIMBY, qui a été surutilisé depuis les années 80, utilisé beaucoup par les promoteurs, par les médias, par pas mal aussi par les scientifiques, pour affaiblir les opposants et les enfermer finalement dans une position illégitime. C'était des gens qui étaient irrationnels, qui étaient égoïstes, ignorants sur les bénéfices du projet et qui voulaient faire barrage à l'intérêt général pour préserver leur liberté individuelle. Donc à chaque fois qu'on avait une contestation, et encore aujourd'hui, malheureusement, ça revient, on parle même du syndrome NIMBY, on affuble ces militants de NIMBYistes. Heureusement, il y a d'autres visions qui émergent depuis les années 90 et 2000, qui montrent que les militants, alors nous on ne dit pas qu'il suffit qu'on soit trois citoyens qui s'opposent à un rond-point pour réinventer la démocratie, mais quand même, il y a ce qu'on a montré dans la convergence qui émane vraiment dans l'ensemble des mouvements qu'on a étudiés, c'est qu'on serait plutôt dans du NIABI, donc not in anyone's backyard, disons traduction de ni ici ni ailleurs, je crois que c'est le slogan du projet contre le site d'enfouissement à Bure, qui s'appelle Bure partout, nucléaire nulle part. Donc on retrouve beaucoup cette inscription de ni ici ni ailleurs. Et effectivement, au niveau de l'attachement au lieu, ça m'a intéressé dans votre reportage là, de militants, essayer de dire qu'ils avaient envie de transmettre cette histoire de beauté de la forêt, dans cette forêt d'Istanbul qu'ils essaient de préserver. On voit de plus en plus que ces citoyens essayent de se mettre à la place de la nature. Comme ils disent à Notre-Dame-des-Landes, nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. C'était un des slogans de la ZAD, ou Triton crété contre béton armé. Donc c'est intéressant de voir que ces militants se mettent à la place de la nature, de ces espèces qui sont oubliées, s'inscrivent dans le long terme. Et ce qu'on essaye de montrer, c'est que l'attachement au lieu, on est tous attachés à un petit bout de forêt, un petit bout de lac, etc., qui normalement s'inscrit dans la sphère de l'intime. Et quand il y a la menace d'un territoire, l'attachement au lieu prend une dimension collective. Il y a vraiment ce désir de transmission de l'attachement au lieu, jusqu'à ce que le lieu devienne finalement partie de l'identité de l'individu. Donc ça, c'est assez important. Et on voit bien que c'est le déni de cette identité par les promoteurs, par les préfets, qui marque la possibilité d'une mutation politique de l'attachement au lieu. Et là, l'attachement au lieu devient, on passe d'un attachement local à un attachement global.
Et c'est là que ces combats deviennent en effet politiques. Finalement, c'est toujours un combat entre deux visions du monde.
C'est pas du vent. Pour nous écrire, c'est pas du vent. info@rfi.fr.
On a fabriqué des églises, des grands palais, des cours d'assises pour lui. On a dessiné des frontières et rangé la paix au vestiaire pour lui. On a façonné un mur entre les ventres creux et les gros ventres pour lui. La bonté n'est plus qu'une enclave, un fœtus, un futur esclave pour lui. Lui que l'on prie tous à genoux, à qui l'on offre tant de vie. Commandant au-dessus de nous les manettes de nos envies. Dieu le seul, le vrai, l'unique. Le fric. Tout le monde reprend en cœur l'air du travail à contre-cœur pour lui. On se fait voleur plutôt pire en marchant de tous nos soupirs pour lui. Asservi, aveugle et muet devant ses misères créées pour lui. On se dégonfle, on s'accroupit en renonçant à l'utopie pour lui. Lui le magicien qui transforme les chefs d'État en marionnettes. Pour ses démocraties conformes à ses idées de proxénète. Le Dieu le seul, le vrai, l'unique. Le fric. Violé d'âme nature, anéanti notre futur pour lui. On a rendu folles les vaches qui sans le savoir s'entremâchent pour lui. Aux philosophies du profit, l'oxygène se raréfie pour lui. On va crever avec le monde, noyé sous notre merde immonde pour lui. Lui qui est au-dessus de tout, du paradis et de l'enfer. Qui a fait Allah son toutou, de Jésus sa bonne à tout faire. Le Dieu le seul, le vrai, l'unique. Le fric. Le Dieu le seul, le vrai, l'unique. Le fric. Le Dieu le seul, le vrai, l'unique.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI et vous avez bien raison. Nous sommes en compagnie des membres du collectif Des Plumes dans le Goudron, sociologues, urbanistes et géographes, qui viennent de publier Résister aux grands projets inutiles et imposés aux éditions textuelles. Autre contexte, celui d'un pays en plein développement, le Sénégal. C'est il y a un peu moins d'un an, en septembre 2017, à l'occasion de la visite au Sénégal du président de Dubai Ports World, que les Sénégalais ont découvert un nouveau projet du plan Sénégal émergent. Qui fait grincer des dents. Pour décongestionner le port de Dakar et faire du Sénégal un hub logistique et industriel régional, je cite le président Macky Sall, le président a annoncé la construction d'un nouveau port de marchandises à Ndayane sur la petite côte à 50 km au sud de la capitale. Le site s'étendra sur 600 hectares. Il sera une réplique du port de Jabal Ali de Dubaï. D'un tirant d'eau de 20 mètres, il devrait d'ici 2021 accueillir 1,5 million de containers par an. Une catastrophe écologique pour une poignée de riverains qui essayent de se mobiliser. Bonjour Mamadou Berté.
Bonjour madame.
Vous êtes l'un des porte-parole de cette association. Alors vous avez conscience de l'importance pour le Sénégal de se développer et que la construction d'un nouveau port est nécessaire, mais vous dénoncez le fait que les populations n'ont pas été consultées et qu'il n'y ait pas eu de véritable étude d'impact.
Tout à fait, madame. Nous avons conscience des enjeux économiques énormes. Nous avons conscience des envies et des projets qui sont développés tous azimuts au Sénégal, notamment ces dernières années. Et nous avons conscience que tout ceci contribue à préparer un futur heureux pour les jeunes générations. Et c'est au nom de ce futur que nous sommes préoccupés par ce qui se passe au présent. Nous avons encore en mémoire cette situation qui nous traumatise relative à la brèche à Saint-Louis, par rapport à laquelle nous estimons n'avoir pas joué pleinement notre rôle. Si nous avions réagi vigoureusement, je pense qu'aujourd'hui, on n'en serait pas à constater des désastres. Mais il faut tout de même préciser une chose. Il ne s'agit pas de se borner à dire non, non au port de Ndayane non plus. Il n'est pas responsable de dire non à un grand projet de l'État. Par contre, comme association de défense de l'environnement, nous devons nous assumer, protéger à tout prix les rares sites écologiques, archéologiques et sociaux qui sont aujourd'hui la fierté du Sénégal avec tous ces écosystèmes extrêmement importants et fragiles.
Mais comment vous comptez vous y prendre du coup pour vous faire entendre ?
Écoutez, en tant qu'association, nous avons le devoir et le droit de communiquer. Et nous avons d'ailleurs prévu demain un forum sur le site près de la lagune Nouma pour continuer à discuter avec les populations de cette question. Nous sommes une association forte de 200 à 300 membres actifs de toutes nos obédiences. Nous avons fédéré tous les villages de Rufisque à Popenguine, en passant par Touba Djalaou, Yen, Ndayane. Et nous avons même des amis qui nous gênent aujourd'hui d'Ombourg et de la Petite Côte. C'est pour vous dire que c'est un projet pris à bras le corps par toutes les populations qui risquent d'être impactées par ce projet.
Et vous vous inquiétez des conséquences écologiques, vous l'avez dit, mais aussi des conséquences économiques pour les populations qui dépendent de la pêche et du tourisme pour vivre.
Tout à fait. On est en train d'expliquer et de faire croire aux populations que ce port va leur donner des emplois directs. C'est archi faux. Au niveau de l'aéroport de Dias, c'est ce qu'on avait promis aux gens, les populations se soulèvent aujourd'hui pour protester. Nous disons qu'il faut se mettre autour d'une table et voir de façon objective et rationnelle ce qui peut se faire à l'échelle de ce qui doit se faire. On parle de tirants d'eau de 20 mètres, mais il faut aller à 100 mètres des côtes, de ce côté sablonneux, pour avoir les tirants de 100 mètres. Donc il va falloir draguer et soulever encore d'autres problèmes. Les écosystèmes vont être totalement détruits et cette destruction est irréversible. Nous disons qu'il faut y aller avec une manière douce, concertée, éco-responsable. C'est en fait ça les enjeux de ce débat-là.
Très bien, bah écoutez, on va suivre votre combat, Mamadou Berthé. Merci beaucoup pour toute cette précision. Julien Milanesi, là, on retrouve hein, l'épineuse question de l'intérêt général, parce que le Sénégal a besoin de se développer et on comprend bien l'utilité d'avoir un port qui a la capacité d'accueillir les porte-containers géants qui naviguent au XXIe siècle.
Oui, alors l'intérêt général, vous savez, c'est une notion très floue en fait, hein, qui et donc l'intérêt général aujourd'hui en France, c'est absolument pas le même que celui au Sénégal, et qui, celui qu'il est en France aujourd'hui n'était pas le même qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Enfin, même la définition en France par le Conseil d'État, par exemple, ils disent voilà, c'est l'expression de la volonté générale. Donc une fois que vous avez cette idée-là, vous n'allez pas beaucoup plus loin. Donc le tout, voilà, c'est d'arriver à trouver un sentiment commun sur des projets. Donc moi, je suis pas à même de dire ce qu'il en est sur ce projet au Sénégal. Par contre, ce qu'on peut dire avec le l'histoire des projets d'aménagement en France, c'est qu'ils ont été beaucoup construits en grande partie dans les Trente Glorieuses, ce qu'on appelle aujourd'hui les Trente Glorieuses. Aujourd'hui, on revient sur cette histoire des Trente Glorieuses en montrant tout ce qui a été fait comme dégâts à cette époque-là. Il y a un ouvrage qui est sorti il y a quelques années de ça, qui s'appelle Une autre histoire des Trente Glorieuses, qui montre notamment tous les dégâts environnementaux et qui ont été à cette époque-là. Et on peut, peut-être avec ce recul-là aussi, dire à nos amis, où qu'ils soient, que voilà, on peut peut-être faire les choses plus intelligemment. Et puis, on peut quand même s'interroger aussi sur l'intérêt général qui serait peut-être mondial qu'il y a derrière des projets comme cela, qui sont ce qu'il y a de commun avec ce qu'on a vu à Istanbul ou ce qu'on peut voir à Nantes ou ailleurs, c'est quand même l'insertion dans la mondialisation libérale. On parle là de grands porte-containers, on parlait tout à l'heure d'avions. Est-ce que ce modèle économique-là, qui consiste à spécialiser les pays dans quelques productions, en créant avec derrière des échanges de commerciaux qui se développent, est-ce qu'il est profitable à la planète, aux individus? On constate au contraire que les transports sont extrêmement émetteurs aussi bien de gaz à effet de serre que de polluants divers.
Oui, aujourd'hui, la tendance la plus raisonnable serait la relocalisation de l'économie. Mais
Exactement.
En même temps, c'est un petit peu difficile de dire ça quand on est français, par exemple, à des Sénégalais.
Mais je pense que les Sénégalais ont aussi beaucoup à gagner à relocaliser leur activité, pas mal d'activités. C'est-à-dire que les pays d'Afrique de l'Ouest, notamment, ont perdu beaucoup ces dernières années dans les échanges internationaux. Il y a eu l'histoire du poulet que vous connaissez certainement en Afrique de l'Ouest, de ce poulet importé à très bas prix en provenance des industriels français. français. Le libre-échange se fait aussi aujourd'hui quand même beaucoup au détriment de ces pays-là. Donc je dis pas qu'il faut absolument fermer les frontières, c'est pas du tout mon propos, mais on peut avoir une conception de ces échanges qui est beaucoup plus raisonnable, pour le dire de façon simple, qu'aujourd'hui.
Léa Sébastien, est-ce que vous pensez que ces mouvements ancrés donc sur des territoires vont se multiplier dans les années qui viennent ?
Oui, je pense qu'on assiste déjà depuis 2008, depuis le début des années 2000, à une multiplication très nette de ces mouvements partout sur le territoire. Alors c'est sûr qu'on parle beaucoup des grands projets médiatiques tels Notre-Dame-des-Landes ou Sivens, mais ce mouvement est irrigué par des centaines de multiplications partout, hein, des hommes et des femmes luttent contre des décharges, des centres commerciaux, etc. Il est clair qu'on ne peut plus bétonner en Europe et d'ailleurs partout, tranquillement, sans tenir compte des populations locales. Et ça, c'est, je pense, enfin, nous, on montre dans le livre que finalement, peu importe que l'infrastructure se fasse ou non, on souligne que le fait même que ces associations existent représente une victoire démocratique déjà, comme élément vraiment de repolitisation des citoyens par le bas, par le territoire. Donc je pense que oui, les promoteurs commencent à se méfier déjà, à prendre de plus en plus de précautions et essayer de travailler sur cette fameuse acceptabilité sociale des grands projets. Mais ce qu'on montre aussi, c'est que jusque-là, tous les processus de concertation, consultation, gouvernance, peu importe comment on les appelle, enquête publique, débat public, ils portent différents noms dans différents pays, sont des échecs. Hein. Les citoyens ne veulent plus participer à ces simulacres de démocratie. Ils les appellent des pièges délibératifs. Et ça revient souvent dans le discours des militants. On l'entendait tout à l'heure aussi dans votre reportage. Ils vivent ça comme un passage en force. Hein, ils ont été échaudés par la participation à de nombreuses instances de concertation pour in fine ne pas être écoutés et ils prennent la parole différemment. Donc ça peut être en occupant le territoire comme à Notre-Dame-des-Landes. Voilà, ils prennent eux-mêmes la parole de manière légale ou non légale, mais on montre bien que la gouvernance est finalement, en souhaitant absolument imposer le consensus, a créé des générateurs de violence sur les territoires. Donc oui, je pense que ces mouvements vont continuer à prendre de l'ampleur, à se multiplier partout sur le territoire, et c'est vraiment une bonne chose. Maintenant, il faut que les dirigeants arrêtent de prendre ces contestations comme des mouvements isolés les uns des autres, le comprennent vraiment comme un mouvement social de grande ampleur et qui est un réel apprentissage des institutions vis-à-vis de ces mouvements, qu'ils écoutent ce qu'ils ont à dire.
Anaïta Grisoni, vous partagez ce constat ?
Oui, alors je partage complètement ce constat. Elle a évoqué, Léa, tout au début de son message, la date de 2008. Je pense que effectivement la date de 2008 est vraiment importante puisque c'est la date officielle de la crise des marchés. Et je voudrais revenir sur un aspect sur lequel on n'est pas forcément revenu. Je pense que ces mouvements ne peuvent que se multiplier, étant donné la situation financière dans laquelle les pays d'Europe sont plongés. Alors, votre émission nous permet aussi de comprendre des choses, et notamment la différence qu'il peut y avoir entre le contexte européen et occidental plus largement, et le reste du monde peut-être, dans le contexte de la crise financière et de la crise des marchés. C'est de plus en plus difficile à avaler d'investir des milliards d'euros ou des millions d'euros dans des grands projets, alors que tous les services publics sont en déclin et qu'on justifie ça par le manque d'argent public. Donc effectivement, on peut voir seulement cette multiplication, un petit bémol cependant, qui est celui de la possibilité d'exercer ce droit à l'opposition pour les populations, parce que si on prend l'exemple de Notre-Dame-des-Landes, ce qui ressort, c'est la grande violence avec laquelle cela a été réprimé par le gouvernement. Donc effectivement, à suivre dans l'espoir que ça fonctionne.
Oui, il faut être extrêmement motivé pour se mobiliser aujourd'hui. Merci à tous d'être passés dans C'est pas du vent. Je rappelle le titre de votre livre, Résister aux grands projets inutiles et imposés, c'est publié aux éditions textuelles. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde de cette émission et à vous d'être fidèle à ce nouveau rendez-vous. N'oubliez pas, vous pouvez nous réécouter sur notre application Pure Radio ou sur le site internet de RFI, onglet émission. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.